Marie Van Cutsem, vous allez nous parler de quelque chose que finalement on a tous en commun, la mort.
Exactement, vous venez de me brûler mon lancement, Africa. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Débat Première. Et oui, ce midi, on va vous proposer un sujet un peu décalé qui nous concerne tous en tant qu'êtres vivants, qui nous touche un jour de près ou de loin et qui nous met à l'épreuve, mais qui peut aussi nous faire réfléchir puisqu'on va parler de la mort. C'est l'occasion évidemment cette semaine de Toussaint. Quel rapport avons-nous à la mort dans la société d'aujourd'hui? Comment gérons-nous ce rapport à notre propre finitude, à notre fragilité intrinsèque? Pourquoi avons-nous tant de mal à en parler? Qu'est-ce qui en fait un sujet si tabou? Et comment le spirituel aussi vient-il apporter un secours à ceux qui y sont réceptifs? En tout cas, qu'est-ce que tout cela dit de nous? C'est notre débat du jour.
Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 3707.
Durant cette émission, nous allons discuter avec des personnes qui fréquentent la mort au quotidien, un entrepreneur de pompes funèbres, une médecin qui travaille dans les soins palliatifs. Comment gère-t-il cette proximité avec la mort, avec le chagrin aussi de ceux qui restent? Nous parlerons également de spiritualité, de philosophie, d'éthique aussi, avec la question du transhumanisme, ce domaine scientifique qui veut améliorer l'être humain, voire qui, à l'avenir, pourrait lui proposer une forme d'immortalité. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue à vous.
Midi 13h.
Débat Première. Marie Van Cutsem.
Et nous accueillons tout de suite nos invités. Corinne Van Oost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin en soins palliatifs à la clinique du Bois de la Pierre à Wavre et membre de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Jean-Philippe Altenot est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur de pompes funèbres. Michel Dupuis est également en studio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur ordinaire à l'UCL et membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique. Et enfin, Gabriel Ringlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre, écrivain et professeur émérite à l'UC Louvain. Bienvenue à tous les quatre. Je vais vous poser la question du jour à chacun. On va commencer avec vous, Corinne Van Oost. Vous fréquentez donc la mort au quotidien dans les services de soins palliatifs. Quel est, selon vous, notre rapport à la mort aujourd'hui?
Le rapport de l'ensemble de la société, vous voulez dire? Je pense que c'est un rapport qui est difficile, mais qui avance avec les soins palliatifs. C'est-à-dire que c'est un rapport avec la maladie, moi, que je vois, d'abord, plus qu'avec la mort. C'est surtout accompagner les gens qui sont malades et qui savent, plus ou moins, que la maladie va les conduire à la mort.
Jean-Philippe Altenot, je vous soumets également la question. En tant qu'entrepreneur de pompes funèbres, la mort fait aussi partie de votre vie. Qu'est-ce que vous constatez de votre côté, dans votre boulot? Quel rapport les gens entretiennent-ils avec la mort?
Alors avant toute chose, je voudrais préciser que je suis davantage confronté à la vie qu'à la mort au quotidien. Mon boulot, mon métier consiste à accompagner les vivants qui sont confrontés à la mort d'un proche. Maintenant, pour répondre à votre question, je constate que la mort est un sujet qui est de moins en moins tabou, dont on parle de moins en moins difficilement, à tous les points de vue, donc d'un point de vue d'organisation de funérailles, puisque c'est mon domaine, mais aussi ce qui se passe avant. Donc là, c'est un sujet qu'on va aborder avec les personnes qui participent à ce débat, mais c'est ce que je constate. C'est une plus grande facilité à aborder ce genre de sujet.
Gabriel Ringlet, le regard du prêtre, comment expliquez-vous ce côté tabou entretenu autour de la question de la mort, quoi qu'il soit peut-être en train d'évoluer, on vient de l'entendre. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en parler, alors que chez nous c'est difficile, mais qu'ailleurs, par exemple au Mexique, il y a toute une autre culture autour de la mort, plutôt orientée vers la joie.
C'est vrai, et c'est d'autant plus étonnant que, par exemple, lorsque moi j'en parle avec des enfants, c'est beaucoup, beaucoup plus naturel que la société ne l'imagine quelquefois. Donc, la mort devrait être un sujet qui nous fait vivre. Ma relation à ma propre mort, ça, c'est de la pure théorie. Je ne sais pas du tout comment moi je vais réagir quand j'y serai confronté. J'ai un vieux cousin moine qui est mort à l'âge de 80 ans, il avait un cancer, il est mort dans des angoisses affolantes, alors qu'il était dans la vie contemplative depuis 60 ans. Donc, comment on réagit par rapport à sa propre mort, c'est un grand mystère et il n'y a aucune leçon à donner à personne. Mais par contre, et là je vais rejoindre mon voisin, entrepreneur de pompes funèbres, je pense que l'enjeu c'est la vie aujourd'hui, et je crois que réellement, une attention à la mort, ça nous fait mieux vivre.
On ne peut
ça
pas
rend
parler,
la vie plus vivante, en fait.
On ne peut pas parler de la mort sans parler de la vie.
Voilà.
Michel Dupuis, votre avis de philosophe, quel rapport entretenons-nous
avec
la mort ?
Une observation un peu élémentaire, c'est qu'il faut être vivant pour parler de la mort. Dire ça, c'est déjà une chose. Et puis peut-être distinguer, effectivement, dans ce qui vient d'être dit, la question est celle de la mort des autres, qu'on voit en société, avec une société chez nous qui est très marquée par le pouvoir médical, ou les technologies médicales. C'est une chose. La mort d'autrui, autrui, c'est le proche, la proche de moi, et puis il y a ma propre mort à moi. Et c'est vrai que les trois rapports sont singulièrement différents. Vous aviez raison d'évoquer le Mexique ou Madagascar, mais on pourrait parler aujourd'hui de l'Afghanistan et de l'Irak, où on meurt beaucoup et de façon extrêmement brutale. Comment peut-on envisager la mort au quotidien dans ces sociétés-là ? Comment le faisons-nous chez nous, où on meurt aussi, mais d'une manière extrêmement différente ? Et nous avons à parler de tout ça, parce que ces contextes-là, contextes scientifiques, politiques, contextes de guerre aussi, d'instabilité, de catastrophes naturelles, tous ces contextes-là font culture, bien entendu.
Eh bien, voilà qui promet un débat fort riche et intéressant. Voilà pour ce premier tour de table. On se retrouve dans un instant pour plonger dans le vif du sujet.
Intervenez dans Débat Première via Facebook et Twitter et par téléphone au 02 737 3707.
Débat Première, midi 13h. Chez Shoe Discount, un tas de chaussures et de vêtements tendance, maintenant à 20, 15 et même 10 euros. Aussi sur shoediscount.be. Shopping. Le Walloué Shopping a 50 ans et c'est plus de 50 bonnes raisons de les fêter avec vous. Venez partager deux semaines de plaisir intense, de découvertes glamour et de cadeaux très shopping. La fête des 50 ans du Walloué Shopping, c'est du 19 octobre au 3 novembre. Shopping. Walloué Shopping. Tram, métro, bus, deux roues, à pied, en voiture, tous les chemins mènent au Walloué Shopping. Hey, oh,
let's go. Le loto a 40 ans et il est en pleine crise de la quarantaine. Comme l'un des symptômes de cette fameuse crise, c'est de vouloir partir loin sur un coup de tête, il y a 40 chèques voyage de 5000 euros supplémentaires à gagner à tous les tirages loto de ce mois-ci. Ce mercredi, il y a un jackpot loto de 1 million d'euros et 40 chèques voyage avec loto surprise. Alors jouez en octobre et enregistrez-vous sur lotosurprise.be. Hey, oh, loto, parce que c'est possible.
La première présente...
Zonzo Compagnie et Beaux-Arts présentent Big Bang, un festival ludique et surprenant pour toute la famille. Une foule d'activités musicales et de concerts détonnants raviront petits et grands. Big Bang, le 4 novembre à Beaux-Arts. Info Beaux-Arts.be. Midi 13h, Débat Première.
Vous écoutez Débat Première, il est midi 12 et aujourd'hui nous parlons de la mort. La façon dont on en parle, la façon dont on la gère. Jean-Philippe Aldenlo, vous faites un métier qui est quand même relativement peu connu, disons de l'intérieur, celui d'entrepreneur de pompe funèbre. À quoi ressemblent vos journées ?
Elle commence comme, à mon avis, n'importe quelle journée de n'importe quelle personne. Donc, c'est-à-dire que il y a un réveil qui est programmé. Et puis, surtout, mes journées, ce qui caractérise mes journées, c'est que elles sont toujours imprévisibles. C'est-à-dire qu'on est à la merci d'un coup de téléphone nous annonçant un décès. Et à partir de ce moment-là, il faut agir. Pas particulièrement dans la précipitation, dans l'urgence, mais il faut réagir et agir dans la justesse. C'est-à-dire que les personnes qui font appel à nous demandent avant tout à être rassurées, à avoir des informations claires, nettes, sans surprise. Il ne s'agit pas de tourner autour du pot, donc il y a des... Comment dirais-je, il y a des actes à poser, certains plus immédiatement que d'autres. Donc, quand on est confronté à la gestion d'une dépouille mortelle, il faut pouvoir la traiter dans des délais plus ou moins rapides. Tout dépend de.
Oui, ça suppose tout un circuit administratif aussi.
Oui, ça vient après, c'est très important, effectivement, mais avant tout, il faut traiter cette dépouille. Alors là, tout dépend de l'endroit, du contexte, des circonstances. Heureusement, dans la plupart des cas, nous sommes confrontés à des morts attendues, pas forcément programmées, mais en tout cas prévisibles. À ce moment-là, les personnes sont dans un hôpital, dans une maison de repos, ou à domicile, dans leur lit, tout simplement. Mais on peut être confronté à des morts violentes, des morts suspectes, des morts volontaires. Donc tout ça demande bien évidemment un traitement plus particulier, parce que on est dans quelque chose d'inattendu, de brutal. Donc voilà, ça fait partie du côté imprévisible des journées.
Comment est-ce qu'on en vient à faire ce métier ? Qu'est-ce qui vous a séduit là-dedans ?
Écoutez, je crois que chaque cas est différent. De manière générale, je suppose qu'on est entrepreneur de pompes funèbres de père en fils, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis pas du tout issu d'une famille d'entrepreneurs de pompes funèbres. Pour ce qui me concerne, c'est un choix personnel que j'ai fait à l'âge de 19 ans, après mes humanités, avant de rentrer au conservatoire en art dramatique, parce que c'est mon premier métier. Mon premier métier, c'est le théâtre. J'ai fait cette démarche vers ce métier parce que il m'intriguait, il m'attirait. Je sais pas pour quelle raison. Peut-être que plus jeune, après avoir vu la pièce Harold et Maude, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, il y avait un lien. J'en sais rien. Mais voilà, j'ai fait cette démarche. Donc c'est quelque chose de très personnel. C'est une démarche volontaire et ma foi, j'ai bien fait, parce que ce métier m'épanouit complètement depuis ce moment-là.
Mmh. Caroline Vanhoost, vous êtes médecin en soins palliatifs, on le rappelle. Comment est-ce que vous gérez cette présence quotidienne de la mort, de la fin de vie ?
Comment je la gère pour moi personnellement ?
Oui.
C'est ça. Ben, moi, j'ai fait ce choix de travailler comme médecin en soins palliatifs parce que j'ai accompagné une de mes tantes comme médecin et je me suis rendu compte qu'elle avait beaucoup de douleurs et de questions, et que il y avait moyen d'y répondre d'un point de vue médical. Et donc j'ai vu l'intérêt des soins palliatifs au quotidien, d'abord dans ma famille. Et ensuite, effectivement, j'ai choisi cette branche-là. Ce qui m'a intéressé, c'est le travail en équipe par rapport aux soins palliatifs. Donc on n'est jamais seul à accompagner une personne et ses proches. On fait ça avec une équipe infirmière, psychologue, accompagnement spirituel.
Oui, parce que j'imagine qu'il faut tout de même beaucoup d'empathie pour travailler dans ce secteur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'empathie sans souffrir soi-même de cette permanence du chagrin, de la mort ?
Mais moi, personnellement, je me donne des objectifs comme médecin face à un patient et à une famille. C'est-à-dire, je me dis, qu'est-ce qui va les aider le plus ? Donc, qu'est-ce qui est important ? En général, les gens demandent à pas souffrir. Bon, donc, je me donne ces objectifs-là. Et c'est vrai que si j'y arrive, si le patient est confortable, alors il va dire mais c'est bien, je peux aborder les questions spirituelles, existentielles, la question relationnelle dans la paix. Donc moi, mon boulot de médecin, c'est de rendre les gens confortables. Ça, c'est mon premier travail, et c'est ça qui m'apaise, c'est de faire bien ce travail-là. Mmh. Et je pense que toute l'équipe est comme ça. On se donne l'objectif d'aider les personnes, et tous les jours, on se dit comment est-ce qu'on va. Qu'est-ce qui est à remplir aujourd'hui comme petite victoire ? Quel petit chemin on peut faire à la personne et à ses proches ?
Gabriel Ringlet, un mot là-dessus peut-être. Les soins palliatifs, on ne connaît pas bien ces endroits jusqu'au moment où on est concerné pour soi ou pour un proche. Comment les malades en fin de vie abordent-ils ce moment ? Est-ce qu'il y a une certaine sérénité qui s'installe ou une forme de résignation, mais une colère ? Vous rencontrez tous les cas ?
Oui, la colère, elle vient avant. La résignation parfois, mais ce qui me frappe quand même beaucoup, parce que je suis aussi depuis pas mal d'années en soins palliatifs, c'est une certaine sérénité. Et cela, je pense, parce que, mais Corinne vient de le dire, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout, je pense qu'elle fait un travail admirable qui est un regard global sur le patient. Le relationnel, le spirituel, le médical, tout cela est pris en compte, mais la famille, les proches aussi. Moi-même, j'ai dû accompagner quelqu'un de très très proche. Vraiment, c'était l'enfer. La souffrance de cette personne qui se retrouvait en soins palliatifs, c'est inouï la manière dont l'équipe a été attentive à ma propre souffrance. Et donc je trouve que ce travail qui est fait là, qui est un travail de synthèse, il est pionnier. Il annonce, j'ose espérer qu'il annonce la médecine de demain, en fait. Et que ceux qui s'inventent en soins palliatifs aujourd'hui, on ferait bien de le mettre en pratique dans bien d'autres domaines de la santé.
Mmh. Michel Dupuis, nous parlions du tabou autour de la mort, du fait qu'on connaît assez mal ces lieux où on s'occupe des personnes en fin de vie. Est-ce que vous avez l'impression que les progrès de la médecine peuvent nous couper, entre guillemets, de cette réalité ? On vit vieux, on l'a intégré, donc on ne pense plus à la mort.
Oui, on peut le voir comme ça. En même temps, ça serait dommage de cracher dans la soupe, parce que tout de même, ces progrès médicaux, ils augmentent l'espérance de vie, d'une part, ils augmentent la qualité de l'espérance de vie, ce qui est quand même aussi un élément très très important. Mais c'est peut-être vrai que la médecine, quand elle est entendue d'un point de vue strictement technique, biotechnique, biomédical, cette médecine-là, elle trahit la problématique anthropologique, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas compte de l'intégrité de la dimension totale de l'être humain. Et donc, un certain nombre de dimensions vont lui échapper à cette médecine. Parfois, des dimensions même simplement psychologiques, sans parler d'une dimension, par exemple, relationnelle ou psychologique. Alors, c'est tout à fait vrai que ce qui se fait aujourd'hui dans les milieux de la médecine palliative devrait pouvoir servir de modèle pour ce qu'on va faire demain en pédiatrie, ce qu'on fait déjà un peu aujourd'hui, d'ailleurs, en pédiatrie, mais de façon plus générale en médecine. Maintenant, je pense que c'est vrai pour la médecine comme c'est vrai pour d'autres éléments de la culture. Une leçon philosophique à propos de la mort, c'est peut-être même la seule, finalement, leçon philosophique à propos de la mort, c'est que tout bêtement, mais vraiment tout bêtement, on ne sait pas ce que c'est. Et si on regarde bien les choses dans l'histoire des cultures, dans l'histoire des traditions, y compris spirituelles, c'est intéressant de voir que les humains se sont donnés des tas de réponses à cette énigme. Et que d'une certaine manière, le positionnement philosophique, il consiste à dire, curieusement, la mort, nous ne savons pas ce que c'est. Et dire qu'on ne sait pas ce que c'est, ça signifie que d'une part, on a bien pris conscience que la mort d'autrui, c'est autrui qui est plus là. Évidemment, ça, personne n'en doute. Mais quand on a dit que autrui n'est plus là, qu'est-ce qu'on a dit sur la réalité de ce phénomène ? Est-ce qu'on peut en penser que autrui est désormais ailleurs, qu'il est autrement ? On a bien ce rapport à l'inconnu. Et j'ai tendance à penser que dans notre culture qui est sur-technicisée, pourrait-on dire, eh bien cette idée qu'il existe une part d'énigmatique, une part d'inconnu, quelque chose qui est béant, pour laquelle on n'a pas une réponse immédiate, y compris religieuse, ça c'est un peu problématique. Et je crois qu'il est important d'y revenir.
Mmh. Caroline Vanos, je voudrais vous lire un commentaire que nous avons reçu sur Facebook de Martine, qui est visiblement, elle aussi, dans l'aide aux personnes en fin de vie. Elle nous dit « Il ne suffit pas d'établir son testament, de signer en temps et heure une demande d'euthanasie, un refus d'acharnement thérapeutique, ni de payer régulièrement son assurance décès pour dormir sur ses deux oreilles quant à sa propre mort. Ce que j'ai observé au chevet des mourants, c'est que la plupart se questionnent sur la qualité de l'amour qu'ils ont manifesté à leurs proches quand la mort n'était qu'un mot. Un conflit familial non résolu, un secret de famille, etc. peuvent provoquer des douleurs psychiques intolérables pour la personne en partance. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi, Caroline Vanos ? Finalement, la mort, ce serait surtout le moment où on se questionne sur sa vie.
Oui, parce que la mort, c'est surtout la séparation, hein, c'est ce que disait Michel. On se sépare de ce qu'on aime, donc on se dit, mais au fond, qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Est-ce que je laisse une trace d'amour et de paix, ou est-ce que je laisse des endroits où finalement les relations sont pas très bonnes Donc effectivement, les gens se questionnent beaucoup sur la qualité de leurs relations, le sens de leur existence. Ils font un peu le bilan en se disant mais au fond, qu'est-ce que j'ai fait ? Si c'était à refaire, est-ce que je le ferais comme ça ? Est-ce que je ferais autrement ? Et donc effectivement, c'est un questionnement qu'ils mènent avec leurs proches, avec nous les soignants, avec les psychologues, avec tout le monde. Et c'est une belle leçon de vie, hein, pour nous, qui les accompagnons.
Mmh. Michel Dupuis parlait de la dimension de l'inconnu qui est difficile aussi à gérer. C'est quelque chose que l'on vous soumet du côté de vos patients ? Il y a des patients qui s'ouvrent à vous sur ces questions-là ?
Oui, les gens ne disent pas forcément, mais nous, on se rend compte qu'ils sont angoissés. Hein, par exemple, la nuit, ils ne dorment pas bien, ou bien ils racontent le matin le cauchemar. On se dit, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui travaillent. Voilà. Donc, on a des petites techniques de médicaments, mais on a aussi plein d'autres possibilités d'accompagnement pour essayer de leur faire exprimer qu'est-ce qui leur fait peur. Est-ce que c'est le moment du passage avec ces douleurs physiques? Est-ce que c'est l'après? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils vont tomber sur, je sais pas moi, des jugements? Voilà. Est-ce que donc on essaye effectivement de leur faire verbaliser, si possible, les peurs, parce que c'est quand même la mort fait peur. C'est le mot.
L'inconnu et la peur. Sur ces questions-là, Gabriel Ringlet, comment est-ce que vous soulagez les personnes que vous accompagnez en fin de vie pour leur répondre sur l'inconnu, sur cette peur de l'inconnu?
C'est vraiment, je vais employer un mot, et je trouve qu'il est très important, c'est le mot sérénité. J'ai encore vécu cette semaine et c'est tout le temps, alors que la mort est au rendez-vous, alors que de fait, les gens peuvent être très angoissés, voire très culpabilisés. Je crois que le rôle de celui qui accompagne à ce moment-là, et en tout cas c'est comme cela que je conçois le mien, c'est d'apporter le plus de paix possible. Mais cette paix ne doit pas être fictive. Il faut que ce soit très 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 habité, et je pense qu'il y a des chemins qui peuvent construire cette paix. Et c'est pourquoi je suis tellement attentif à la dimension rituelle, c'est que je me suis rendu compte que ce n'est pas du côté du cerveau que toutes ces questions se posent, elles sont bien plus concrètes que cela, c'est dans le toucher, c'est dans toutes les formes d'expérience.